Bienvenue à Black & Blue. Ici, on fait de la radio à l'arraché et en réunion pour aggraver notre cas. Font partie de la bande aujourd'hui Françoise Cordet, qui en est depuis un certain temps déjà l'égérie, Véronique Amiot, qui s'est risquée à lui prêter son appui logistique, et je crois reconnaître son beau regard entre sa chapska en peau de loup et ses moustaches givrées, Stanislas Georges Pakczynski. Aujourd'hui, pour changer, tiens, une chanteuse brésilienne, Gal Costa. En 1958, la compagnie Odeon publie les tout premiers enregistrements personnels de Jean Gilberto, qui sont aussi les tout premiers disques de Bossa Nova. Au Brésil, à cette époque, on commercialise encore des 78 tours. La cire inaugurale porte sur une face Chega de Saudade, dont Caetano Veloso dira plus tard qu'il s'agit de la plus belle des Bossa Nova jamais écrites, et sur l'autre face Bim Bam de Jean lui-même. Caetano ne sera pas le seul au Brésil à recevoir de plein fouet le choc de cette révolution douce mais capitale, annonciatrice de grands chambardements dans la culture populaire du pays, puis via New York et l'Amérique du Nord dans tout le monde occidental. Dès 1959, la future Gal Costa découvre la nouvelle musique à la radio. Non sans grandiloquence, un journaliste a écrit qu'une Cendrillon déguisée en vendeuse de disques de Salvador de Bahia avait entendu dans les nobles murmures de Jean Gilberto la prophétie selon laquelle elle deviendrait la plus grande chanteuse du pays. Bon. Disons avec un peu plus de simplicité qu'elle fut accrochée d'emblée, enthousiasmée et bouleversée par les deux innovations que Gilberto apportait conjointement, une démarche rythmique, la batida, qui tranchait sur toutes celles que les sambistes avaient largement eu le temps d'expérimenter, et une approche du chant fondée sur l'intimisme, la confidentialité, la technique si féconde du chant parlé, dont on ne répétera jamais assez que Jean, de son propre aveu, l'avait en partie emprunté à Henri Salvador, venu au Brésil, rappelons-le, pendant la Deuxième Guerre mondiale avec l'orchestre de Reventura. Comme sa rivale et amie Maria Bethânia, Gal Costa se glissera tour à tour dans plusieurs personnages dont certains opteront sur scène et en studio pour l'expressionnisme, l'exaspération, la transe. Mais elle gardera toujours en réserve pour s'y glisser avec volupté de temps à autre sa vieille peau douce de chanteuse bossa nova, comme on dit flamenca en d'autres lieux. Le premier enregistrement qu'elle publia en 1965, encore sous le nom de Maria da ou de, selon les sources, Graça, faisait clairement référence à la bossa nova. Deux ans plus tard, paraîtrait Domingo, son premier album signé Gal Costa, en collaboration avec Caetano Veloso, une entreprise placée sous le signe de Jean Gilberto. Elle, qui offrirait bientôt l'image d'une chanteuse agressive, voire abrasive, y apparaissait assez proche d'Astro Gilberto, acceptant de montrer à tous une fragilité qu'elle dissimulera par la suite. Avec l'esprit et la lettre de la bossa nova, elle renouerait en 1999, grâce au double CD Gal Costa chante Tom Jobim en public, hommage au compositeur disparu le 8 décembre 1994 et qui n'aurait pu rêver d'un plus affectueux hommage que celui de Gal et de la foule venue l'entendre, ou plutôt venue communier avec elle. Quelqu'un a pris le risque d'affirmer que cette réalisation phonographique était du niveau de ce que la musique brésilienne avait produit de plus irremplaçable sur disque. Une chose est certaine, Canta Tom Jobim met à mal le cliché selon lequel les entreprises consensuelles sont à plus ou moins brève échéance condamnées à la stérilité. Au contraire, la force des Brésiliens aura été d'arrêter un mouvement en train de se pétrifier, celui de la bossa nova au terme d'une élancée de 6 ans, lorsqu'il rencontra sur son chemin le barrage de la dictature militaire, lequel l'obligeait à se banaliser et surtout à devenir lénifiant, leur force aura été d'achever d'une main qui ne tremblait pas ce qui était en train de mourir et, pendant ce temps-là, de se refuser à scléroser ce qui lui avait donné la vie. Les meilleurs n'ont condamné ce robinet d'eau tiède qui était devenu la bossa nova entre les mains des épiciers et des dompteurs de foule que pour mieux en protéger, en sanctuariser à jamais les sources vives. La bossa allait entrer dans les musées, dans les ascenseurs, dans les grands magasins. Ceux qui alors ont su rompre avec elle, ces tropicalistes dont Gaug avait été une figure de proue, furent aussi ceux qui surent en préserver la plus intime flamme. Un de ses compatriotes écrivit de notre héroïne: cette tigresse devenue un temps notre muse tropicale, pieds nus, fleurs dans les cheveux, aux allures de hippie, se transforma bientôt en femme mûre et fatale, portant talons hauts et robes lamées, perpétuant en cela la tradition des primadonnas de nos scènes. On découvre sans grand effort une femme très exigeante et méticuleuse, un répertoire éclectique mais choisi avec soin, allant d'Augusto de Campos à Vladimir Mayakovsky, de Billie Holiday à Jamelan, sans oublier son besoin de rester une chanteuse populaire. La voix de Gao Costa hésite entre le tranchant de la lame qui taille en pièces les rythmes endiablés et la douceur des ballades délicates. Elle se joue des notes et des mélodies pour les faire exploser vigoureusement, corps et âme fondus en une même vibration. Gao Costa chantait Jobim Anos Dourados.
C'est belle musique, n'est-ce pas,
hein? Ah, je trouve que c'est une mélodie extraordinaire. Oui, bon, l'accompagnement est ce qu'il est, hein, c'est
oui,
de la variété, ça ne s'en cache pas.
Mais la mélodie.
Mais, toujours chez Jobim. Je pense que ça aurait été finalement, dans le siècle dernier, le seul non-américain qui aura pu rejoindre le clan des très grands. Alors appelons-les chansonnistes, pour ne pas dire chansonniers, mais ces mélodistes populaires extraordinaires, presque tous d'ailleurs originaires de d'Europe centrale, oui. Il faut le rappeler, Kofour, oui. Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, parce que leur nom ne l'indique pas, mais pour la plupart, c'était des Juifs de Pologne, de Russie, etc.
Bien, Alain, donc, l'histoire du piano en diagonale. Alors, après Bill Evans, après la maîtrise sans effort, je recommence ma litanie, bien sûr, mais pour fixer les idées, n'est-ce pas ? Après Bill Evans, après la maîtrise sans effort de Kenny Werner et Pieranunzi, avec Pieranunzi, l'art du toucher avec Fred Hirsch et l'ouvrage de Bertrand Hoth, Liszt et la pédagogie du piano. Ensuite, l'art de la résonance avec Phineas Newborn, l'art du silence avec Monk, Ahmad Jamal, Paul Blade, John Lewis. Après l'art de la virtuosité avec Art Tatum, Oscar Peterson, Vladimir Horowitz, souvenez-vous. Et l'art de la lenteur, on avait évoqué Jeff Hamilton, Peter Erskine, les pianistes contemporains, Mark Copland, Bill Carothers et Bill Stewart, qui accompagnait Bill, qui était en duo avec Bill Carothers.
Mais de même que Jeff Hamilton est batteur.
Voilà, hein, le batteur Jeff Hamilton, qui avait écrit une très belle mélodie que nous avions entendue. Et nous avions conclu cette émission, d'ailleurs, souvenez-vous, Alain, avec Gilles, Emile Gilles, qui jouait Grieg. Alors voici maintenant l'art du son. Alors vous allez me dire, l'art du son, c'est infernal. Parce que là, il faudrait citer, bien entendu, tous les pianistes, Alain, vous imaginez bien. Parce que de Fats Waller à Teddy Wilson, de Monk à John Lewis, de McCoy Tyner à Herbie Hancock, de Kenny Werner à Mac Copland, John Taylor, de Chick Corea à Keith Jarrett, ils ont chacun leur son, leur manière. Donc, en fait, c'est une émission quasiment impossible. Alors, je me suis quand même dit qu'on va éliminer, si vous voulez bien, le vocabulaire des nouvelles technologies musicales qui évoquent le son différentiel, le son glissé, le son hybride, le son inharmonique, le son multiphonique. Bref, c'est pas du tout de cela dont il sera question ce soir. Mais tout simplement de l'art des sons, dont la définition c'est art de combiner des sons d'après des règles, d'organiser une durée avec des éléments sonores. Autrement dit, j'ai pensé à la chose qui m'a beaucoup marqué dans la vie de musicien, c'est la première chose, c'est le son d'un musicien. C'est-à-dire que quand vous entendez Armstrong, au départ, vous entendez un son. Si vous entendez Parker, Miles, Coltrane, vous entendez un son. Et peut-être que la phrase musicale vient simultanément, mais peut-être que c'est d'abord le son que l'on entend. Et donc, tout musicien, et c'est l'idée de départ que je vous propose, tout musicien porte en lui un son, et c'est ce son que je vous propose d'illustrer d'une certaine manière. Il a donc en lui, comme dirait le poète, un opéra, il est un opéra fabuleux. Et cet opéra fabuleux, quel que soit l'instrument, eh bien je vous propose de l'illustrer comme ceci. Alors Alain, si on regarde les évangiles, on entend qu'au principe était la parole, au commencement, toujours au commencement, mais au commencement on aurait pu dire qu'il y avait le rythme, au commencement on pourrait dire aussi comme certains l'ont pensé qu'il y avait l'action, au commencement, on peut dire qu'il y avait le son. Et le son, ce fut d'abord le son, c'est-à-dire quelque chose qui sonne. Et ce que vous venez d'entendre est pour moi une illustration, alors disons tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit de le début du concerto de Brahms, le numéro 1 en ré mineur opus 15, avec Gilels, que nous n'entendrons pas, et Eugen Jochum, qui dirige le Berliner Philharmoniker, s'enregistré en 1972. Et donc là, j'ai l'idée suivante, c'est que Coltrane, ou tous les plus grands musiciens de l'histoire du jazz, Keith Jarrett et le musicien que nous allons entendre après, entendent en eux quelque chose d'absolument gigantesque, que ce soit indépendamment de la nuance, piano, mi fort, fort, il s'assoit derrière l'instrument, le pianiste se met derrière l'instrument, et intérieurement, il entend quelque chose. Et ça doit être quelque chose d'extraordinairement fort, d'extrêmement puissant, d'extrêmement habité. Et donc, j'ai pensé que l'illustration que nous venons d'entendre, et cette image est une image intérieure, si je veux dire. Et en fait, l'idée est la suivante, c'est que tout musicien doit apprendre à découvrir son son, le découvrir progressivement, puis ensuite l'améliorer, comme nous l'avons dit dans d'autres émissions, en fonction de cette géographie intérieure qui habite chaque musicien et avec laquelle qu'il améliore sans cesse, c'est-à-dire toute la musculature qu'il améliore sans cesse, qu'il est tout le temps en train d'écouter. Et intérieurement, ce son qui va apparaître, qui au moment où il va commencer à jouer, à mettre les mains sur le clavier, c'est extraordinaire d'ailleurs de voir les musiciens mettre les mains sur le clavier, la manière dont ils posent les mains, la manière dont ils commencent les premiers sons, c'est déjà tout est dit quoi. Tout est dit déjà, rien que dans la posture du corps et dans la manière dont les mains s'avancent sur le clavier.
En fait, il y a deux étapes dans le périple de quelqu'un qui pratique un instrument. D'abord, quand vous venez de le faire remarquer, être en mesure d'entendre soi-même, venant du travail que l'on effectue sur l'instrument, le son qui résonne préalablement en vous.
Oui.
La grosse difficulté, cependant, ça va être ce son que vous avez pu, à force d'application tirée de l'instrument, le faire entendre tel quel à ceux qui sont dans la salle. Et ça, c'est un sacré problème.
Alors oui, en effet. Alors, là, vous soulevez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Parce que le problème, c'est qu'il y a un son antérieur à celui qui va être produit. Il y a le son que le musicien entend en lui. Après, il y a la communication, il y a le geste qui s'avance vers l'instrument, il y a la communication à l'instrument, et le fait de traverser la scène, et de traverser vers les premiers spectateurs qui sont là, et surtout les derniers.
Oui, d'ailleurs, certains musiciens vont jusqu'à dire que si vous voulez faire profiter de ce son qui est en vous, ceux qui sont devant vous, il faut sacrifier précisément le plaisir que vous pourriez retirer de l'écoute de ce son tel qu'il vient de l'instrument. Bon, ça se dit surtout pour les batteurs, hein, oui. Je ne vous apprends rien, mais je suppose que ça n'est pas très très différent pour les autres instruments.
Et c'est sûr que ce qu'un pianiste entend et ce que les gens entendent, c'est sûr qu'il y a quand même, au bout du compte, une différence quand même. Mais la différence, ça c'est extrêmement intéressant le problème que vous soulevez, parce que c'est une différence de, j'allais dire, de une différence extérieure, mais pas une différence de nature profonde, parce que le son qu'habite le musicien, qu'il l'habite et qu'il veut faire habiter aux autres, c'est une sorte de transmission par-delà les notes, n'est-ce pas ? C'est donc autre chose qu'il fait. Et dès qu'il commence, où le spectateur est pris, ou il demande à attendre encore, et s'il attend, ça se passe très mal, quoi. Ça se dégrade déjà dans son fort intérieur. Il faut arriver à le convaincre dans son fort intérieur. Et ça devient, et la partie est presque perdue. Il faut pratiquement au départ, dès la première note, emmener les gens qui sont là. Et ça, justement, par ce travail préliminaire, qui est tout à fait ce travail préliminaire intérieur qui se construit et qui est en fait, au bout du compte, un voyage intérieur.
Alors, ça pose un autre problème, notamment aux jazzmen, pas seulement à eux, mais principalement à eux, c'est que dans la plupart des cas, leur instrument, le piano donc en l'occurrence, il va falloir le sonoriser, il va falloir. Et vous voyez, où je veux en venir, hein, parce que chacun sait bien que les très beaux disques de piano, y compris en jazz, qui ont été enregistrés, ils ont été enregistrés dans de toutes petites salles où on n'avait pas à sonoriser précisément. On se contentait de prendre un piano dans une acoustique idéale.
C'est vrai que là, vous abordez par ce problème.
Alors, vous allez jouer à Bercy, c'est foutu. Hein, il faut sonoriser.
Alors, peut-être une information pour nos auditeurs, pour les musiciens de jazz plutôt. Est-ce qu'ils savent que Chopin, lorsqu'il jouait du piano, mezzo forte, c'était sa plus forte nuance, et qu'il jouait entre quadruple piano et mi-fort, et qu'il avait un éventail absolument énorme dans cette palette qui, pour nous, est extraordinairement aujourd'hui réduite, et qu'aujourd'hui, les musiciens en général, et les musiciens de jazz commencent à jouer entre mi-fort et fort. Et donc le volume, le son, donc, a une toute autre portée. Il est d'emblée, j'allais presque dire, agressif au départ, de par le niveau même du volume sonore. Donc déjà, avant même que ça commence, vous êtes déjà, en quelque sorte, attaqué intérieurement. Alors là, ça devient très très grave, parce qu'en fait, toute l'intériorité peut disparaître progressivement par cette espèce de phénomène sonore. D'ailleurs, il y a des musiciens qui prétendent que Bill Evans était fascinant parce qu'il y avait Scott Lafaro qui n'était pas amplifié, et que progressivement, les batteurs et les contrebassistes, le contrebassiste amplifié Eddie Gomez a amené Marty Morell à jouer plus fort, etc., et que Bill Evans a joué plus fort. Enfin bref, on était loin du côté, j'allais dire, doux et feutré du village Vanguard, vous voyez.
Moi, je connais toutes sortes de salles, des grandes salles, et en général à travers le monde, principalement des salles dans lesquelles se déroulent des festivals internationaux pendant la période d'été,
oui.
Où vous n'entendez jamais un piano tel que nous le connaissons. Ce que vous entendez, c'est une sorte de bahut qui fait 30 mètres de haut sur 80 de large.
Alors,
ça aussi, ça pose un sacré problème.
Mais vous voyez, là, sur ce terrain-là, nous nous éloignons un peu du terrain proprement dit, du musicien.
Oui, je suis bien d'accord. J'accumule les difficultés qu'il y a.
Alors, je vais vous emmener dans un endroit que vous aimez énormément, Alain, puisque nous avons déjà passé, non pas ce morceau, mais le contexte dans lequel il a enregistré. Si je vous dis La Forêt Noire, si je vous dis Hans Brunner Schwer, si je vous dis Oscar Peterson,
Vous dis, n'en jetez plus, Willingen, arrêtez immédiatement, suffit. BASF, Saba, je vous sors toute la litanie.
Alors là, vraiment, là, vous allez entendre Brahms, n'est-ce pas ? Vous allez entendre le Big Band, vous allez entendre ce qu'un musicien est déjà, c'est-à-dire, il est un orchestre, un opéra fabuleux, je disais tout à l'heure, mais c'est un orchestre à lui tout seul. Et le piano que vous allez entendre, c'est Oscar Peterson, on est in Mellotown en 1968. Faut peut-être situer pour nos amis, n'est-ce pas ? On est dans une villa somptueuse, il y a des fauteuils club, il y a un immense piano.
C'est l'homme qui vend les bandes magnétiques BASF, homme-là, et il est un ingénieur du son tout à fait remarquable. Et il va donc fonder une compagnie de disques qui s'appellera d'abord Saba, avant de devenir MPS. Son grand plaisir, c'est d'entendre, lui-même est pianiste amateur, d'entendre des pianistes, et des pianistes qui sont des virtuoses de la chose.
Alors, il fait venir Oscar Peterson avec le trio, et ça pendant des années, alors différents trios, il a eu différents trios, mais il les paye comme s'il venait à Salpêtrière, vous comprenez, ça c'est incroyable. Il y a un buffet, il invite une vingtaine de personnes, et là, quand il veut, Peterson joue quand il le désire, vous comprenez, un rêve absolu. Il joue, il s'assoit, non, je n'ai pas envie de jouer, là je vais manger, boire quelque chose. Je m'assois et là, tout à coup, je commence à jouer. Et voilà, il est ici avec Sam Jones, Bobby Durham. Écoutez, c'est sublime, là.
Je pense qu'il s'est souvenu, cet homme, Hans-Georg Brunner-Schwer, qu'à au moins deux reprises au cours des années 50, Artetum avait enregistré une série de pièces qui sont parmi ses plus remarquables dans des conditions qui étaient celles-là. C'est-à-dire que Artetum était invité par des amis parties, et il jouait ou il ne jouait pas. Parfois il a joué, et en plus il y a un magnétophone qui tournait, et ça nous a donné une collection d'œuvres tout à fait remarquables.
Alors écoutez, Alain, avant d'écouter juste l'enregistrement, vous imaginez la situation du musicien quand il est devant son piano dans ces conditions-là. Il a le temps de préparer le son en lui, de prendre le temps d'intérioriser les choses et de les communiquer. Sans être dans la situation du concert ou du club, les gens attendent ça. Là, il a le temps. Et quand il est bien, il commence à jouer. Écoutons.
Thank you.
À travers le thème ellingtonien de In a Mellotone, une sorte d'hommage au blues éternel.
Absolument, un hommage absolu.
Voilà, qui évoquait son... aussi d'ailleurs, bien qu'il s'agisse d'un thème ellingtonien, le Big Band de Basie, dans le chorus final.
Voilà, oui. Nous sommes en 1968, Sam Jones à la contrebasse, Bobby Durham à la batterie. Alors, un peu affiner notre direction et notre chemin. Il serait facile d'en rester là, c'est-à-dire de parler du son, donc volume, tout ce que nous avons évoqué, pas le volume, mais l'intensité intérieure. Mais cette intensité intérieure peut être d'une beaucoup plus grande finesse que ce que nous venons d'entendre.
Encore qu'il y a des choses. Vous savez, j'ai remarqué au tout début quelque chose qui m'a beaucoup frappé.
Oui.
Il y a un accord qui est joué avec une grande autorité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc cet accord vibre et résonne.
Oui.
Et après, dans la mesure d'après, arrive un autre accord dont on dirait qu'il n'est lui que résonance. On n'entend pas du tout les doigts jouer les notes. Il y a une espèce de brouillard de musique. C'est extraordinaire. Voilà un exemple de travail sur le son.
Sur le son, tout à fait. Alors, je vais vous emmener, vous avez raison de le souligner. Alors, Neuhaus, qui était le grand professeur de Gilels et de Richter, disait qu'il est certain que la maîtrise du son tient une place prépondérante parmi les problèmes techniques que doit résoudre le pianiste. Et il dit la chose suivante, les trois quarts de mon enseignement sont consacrés au travail du son. Donc, de travailler le son. Et je crois que là, je veux vous proposer tout à fait autre chose pour affiner notre direction du son. Vous savez qu'il y a la voix, il y a le geste, il y a la corde qui vibre. Le piano est une corde que l'on frappe, mais il faut la faire chanter, cette corde. Et je pense que le fait de faire chanter une corde, eh bien, je vous en illustre quelque chose qui, j'espère, va vous plaire, Alain. Vous vouliez dire quelque chose ?
Je voulais dire que on touchait là un problème, un vieux problème et très important qui a empêché de dormir un nombre incalculable de pianistes. Et je suppose que ça continue maintenant. C'est comment, sur cet instrument-là, cet instrument à touche, dans lequel, jusqu'à plus ample informé, on ne souffle pas.
Oui, bien.
Bon, comment infléchir les notes ? Comment infléchir les notes ? Alors, je ne sais pas comment on fait, mais en tout cas, dans le morceau qu'on vient d'entendre, à un moment donné, c'est toujours dans l'exposé du thème, il y a une véritable inflexion. Oui. Où justement, il joue de la résonance, et comme on n'entend pas les mains se poser sur les touches et les actionner, on a donc l'impression d'entendre ce qu'on ne devrait pas pouvoir entendre venant d'un piano.
Oui, mais vous vous souvenez de notre émission, nous avions parlé du toucher, je vous avais évoqué la manière de tirer vers soi les notes, de tirer, et là d'extraire du piano, d'extraire, de l'amener vers soi, et de faire la chose tout à fait étonnante, c'est-à-dire de ramener le son vers soi pour que le son aille vers les gens, et non pas le piano qui va vers les gens, ce que Bertrand Hoth a expliqué magnifiquement d'ailleurs dans son ouvrage. Alors maintenant, pour affiner donc ce son, sans que cette corde qui vibre dans le sens aussi bien abstrait, cette corde intérieure qui vibre, que sur le plan concret. J'ai pensé qu'il y avait un exemple qu'il ne fallait pas que je rate et qu'il fallait absolument que je partage avec vous ce soir. magistral, n'est-ce pas, là, magistral. Vous savez, c'est la cadence du concerto pour violon de Mendelssohn, et en mi mineur, opus 64, et c'est Nathan Milstein, que Georges, notre ami Georges, avec lequel Georges Plougramer a travaillé pendant plus de 20 ans à travers le monde, et travailler avec un musicien comme ça, vous rendez compte, vous entendez ça, mais c'est incroyable.
C'est un peu un catalogue de précisément tout ce qu'on ne peut pas faire avec la corde d'un piano. Il y a évidemment les effets de frotter, de glisser, et surtout, ce qu'on ne peut réaliser qu'avec l'archet, cette façon à certains moments de faire rebondir une note sur la suivante.
Alors, imaginez-vous, Alain, que là, ce son que vous entendez, c'est quasiment un son idéal. Vous savez que l'arc musical était le premier instrument de musique que l'on a vu sur les parois pariétales, qu'on a vu dans la représentation 15 000 ans avant l'ère chrétienne. Le premier instrument de musique qui sont apparus, qu'on voyait, c'était une sorte de sorcier qui jouait de l'arc musical. Enfin bref, le son par la corde qui vibre. Et le piano, effectivement, c'est impossible à reproduire ça. Mais intérieurement, il faut que le pianiste ait quelque chose en lui de comme ça. Il faut qu'il y ait une fibre très forte qui l'habite et qui communique cette fibre aux gens qui l'entrent. Alors j'ai trouvé quelque chose qui... C'est incroyable, c'est toujours Neuhaus qui raconte, il dit « Mon exercice favori est de jouer une ou plusieurs notes et de les tenir jusqu'à ce que l'oreille ne perçoive plus la vibration de la corde, jusqu'à ce que le son disparaisse complètement. Seul l'élève, qui entend clairement la durée du son, avec ses variations d'intensité, comprendra toute la beauté, toute la noblesse du piano. Cette continuité du son est encore plus belle que son attaque. » Autrement dit, lorsque vous entendez ça, le musicien emmène les gens. Il les emmène. Les gens ne peuvent pas rester de glace à ça. Et il y a ici une chose qui m'est particulièrement chère, qui va dans le sens... Alors nous affinons notre travail. Et voilà ce que dit Neuhaus un peu plus loin. « Je propose en premier lieu de considérer la sonorité d'une seule note. » Un pianiste avide de connaissances s'intéressa forcément à cet embryon de musique. L'histoire suivante me vint à l'esprit. Un acteur célèbre, après avoir entendu un jeune comédien réciter le célèbre monologue d'Hamlet, lui demanda de dire « Ah !» de 17 façons différentes. « Ah !» de douleur, de joie, de surprise, d'interrogation, de menace. Et entre parenthèses, Neuhaus dit « Je pense qu'il existe dans la nature bien plus de 17 façons de dire « Ah !» Voilà à quoi je pense. Le piano permet de faire naître un son unique de tant de façons différentes que dès ce niveau, on a affaire à un problème technique intéressant. Mais Neuhaus ajoute aussitôt, si le pianiste possède suffisamment d'imagination, il peut par une seule note exprimer, comme l'a fait Wagner, une multitude de nuances. Tendresse, hardiesse, colère, un estatico à la Scriabine, la solitude, le vide. Et beaucoup d'autres choses encore, à condition, bien entendu, d'imaginer que cette note, et c'est là où je voulais en venir, Alain, que cette note a un passé et un avenir. Autrement dit, si vous êtes musicien et surtout pianiste, vous aimez la sonorité de votre instrument, cela va de soi, donc le temps consacré à une seule note vous procurera déjà la joie d'entendre la vibration argentée de la corde et vous amènera sur le seuil de l'art. Je pense que c'est une leçon de musique absolument magistrale, qui rejoint ce que disait Kenny Werner.
À condition toutefois de ne pas oublier que ce qui donne aussi tout son sens, toute sa richesse sonore également à la note, c'est la note qui la précède et la note qui la suit. Et tout l'art, précisément, est de donner un sens à cette syllabe par la syllabe qui précède vient ensuite.
C'est donner un sens. Et alors là, j'ai pensé qu'évidemment, on va revenir au jazz. Qui avait un musicien magnifique qui illustre ça, c'est Kenny Barron. Et je vous propose Kenny Barron avec Ray Drummond et Ben Reilly. Vous me voyez venir, Alain. Live at Bradley's numéro 2. Et nous sommes dans You Don't Know What Love Is. Et là, vous allez entendre, on est le 6 avril 96. C'est vraiment... Il faudrait entendre tout le morceau, il dure 15 minutes, 12, pas possible. Donc nous allons chanter, mais je supplie nos auditeurs d'acheter ce disque. Et s'ils ne sont pas contents, qu'ils m'envoient un courriel, n'est-ce pas ? Je rembourserai les gens qui ne seront pas satisfaits de ce disque, de ce morceau. Oui, je le dis, j'ose le dire, Alain. Et donc, en fait, Là, le trio joue, il y a une introduction, le trio joue. Et après, il y a d'ailleurs un échange entre le bassiste et le batteur qui sont sublimes, n'est-ce pas? Mais déjà, là, le trio, Ben Reilly, il joue la cymbale, il change. Là, on arrive au pont, il change de cymbale. C'est avec une douceur, avec, j'allais dire, une féminité dans l'attaque animale du son, vous voyez. Il y a une sorte de sexualité du son, si on pourrait parler de ça, de certaines extraordinaires profondeurs. Toutes les racines obscures de la personnalité apparaissent là. Et là, il y a une chose qui s'installe, c'est le swing. Thank you.
Je vais prendre le risque de dire qu'il y a quelque chose qui m'apparaît à ce stade de l'émission et qui concerne le sujet que vous êtes en train de traiter, Georges, le son. Donc, oui. On vient d'entendre là un pianiste qui sonnait merveilleusement bien, Kenny Barron,
oui.
Hein, sur le thème de « You don't know what love is
oui. ».
Accompagné par Ben Riley et Red Drummond, Ben Riley, le batteur, Red Drummond, le contrebassiste.
Ouais.
Il y a une chose qui m'apparaît, c'est que ça concerne toutes les musiques que nous avons entendues ce soir. C'est qu'il y a en fait dans l'audition une dimension visuelle. Alors, vous avez des pianistes qui, pour faire valoir leur son, puisque c'est comme ça qu'on dit, on ne devrait pas le dire, mais c'est comme ça qu'on dit... use d'une très large palette. Alors, ils peuvent tartiner la pâte, ils peuvent l'étaler au couteau, comme les peintres. Ils peuvent ne se servir que de couleurs vives sorties du tube. Et pourtant, ça ne suffit pas s'il n'y a pas, autre aspect visuel, la lumière. Et ce que tous ces gens sont, ils sont des maîtres extraordinaires dans l'utilisation de la lumière.
Ah, c'est magnifique, là.
Magnifique, j'en sais rien, mais je pense que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a du son et quelqu'un qui en a moins, c'est que celui qui en a moins n'arrive pas à faire transpirer la lumière à travers les couleurs.
À travers les couleurs. Alors là, ça nous emmène dans un univers d'une intimité et d'un arc-en-ciel sublime. Je pense que l'homme est en fait habité par une force qui l'anime, mais qu'il ignore. Et au bout du compte, nul ne se connaît soi-même. Il n'y a rien à faire là-dessus. Et je pense que le son dévoile cette force et permet de se découvrir. Et de découvrir une partie de son être un peu obscur, puisque vous évoquez la lumière, qui a une partie qui jaillit à un moment, et on devient un autre homme. Quand on joue. Ça, c'est assez extraordinaire. On est quelqu'un d'autre quand on joue. On n'est pas la même personne, vous voyez. On devient quelqu'un d'autre.
C'est lié à la patience et à la capacité de pouvoir s'entendre. C'est très difficile de se supporter quand on est musicien. On a l'impression que tous les gens qu'on a entendus ce soir sont arrivés à ce stade
oui.
où ils arrivent à se supporter et à rester là, ne pas fuir
pas
devant
fuir.
Le son
Alors,
qu'ils
c'est
entendent.
C'est là où c'est incroyable. Parce que, vous savez, il y a cette nouvelle d'Henry James, La bête dans la jungle. La personne qui présente cet ouvrage dit l'éruption finale. Il dit l'éruption et l'éruption finale de la bête gigantesque qui l'attaque tel un tigre de Salvador Dali n'est que le retour ironique et onirique, mortifère et superbe de ce qu'il a refoulé toute sa vie. Il parle du héros. Donc en fait, il y a quelque chose que le son permet justement de... C'est une sorte d'exutoire et en même temps, c'est une sorte de confrontation, c'est un miroir avec soi-même, le son. On joue mal, on a un son qui n'est pas terrible. On joue mieux, on correspond un peu à ce que l'on est. On s'éloigne de ce que l'on est ou on correspond de plus en plus à ce qu'on est. Alors, pour finir notre émission, Alain, nous sommes en 1943, en URSS, sur un terrain d'aviation, terrain militaire. Sur le terrain, Alain, tenez-vous bien, il y a un praticable. Et sur le praticable, qu'est-ce qu'il y a ? Un piano. Des avions autour du praticable. Sur les ailes des avions, des pilotes assis, pensifs. Et certains debout devant les avions, qui laissent au piano, sur le praticable. Il a 27 ans. Les regards des pilotes, le visage, tout ça. Un avion passe au-dessus au moment où il joue. Il passe au-dessus. Il y a un avion qui passe. Il laisse, regarde en haut. Il voit l'avion passer, il le regarde. Il continue à jouer. On voit dans le film un pilote qui descend de l'avion et va rendre compte de sa mission devant son supérieur. En arrière-plan, Gilels achève son morceau. La musique est identifiée à une nation en lutte, la musique immortelle. Le regard des pilotes, c'est le son, la vie, la mort. Je vous propose cette illustration de Gilels qu'on n'a pas entendue au début de notre émission avec Brahms. Donnons-lui la parole sur ce prélude en sol mineur, opus 23, numéro 5. Superbe qu'il a gardé toute sa vie. Prélude de Rachmaninov, il est enregistré ici en décembre 1977. Thank you.
fidèles, Rachmaninov et le son lorsqu'il se transforme en décor avec un ciel en mutation perpétuelle posé sur des découvertes infinies. Black and Blue, c'est terminé pour ce soir. Véronique Amiot a mis en onde ce que Françoise Cordet a mis en page. Sur la sellette, le sieur Paczynski, bien planté sur ses bottes de loutre pleines de paille, le haut du corps plongé dans le ventre du piano. L'émission va se refermer sur cette image épique. Pour épuiser dimanche, il ne nous reste quelques fractions de secondes. Finissez bien la nuit, passez une semaine excellente.